Ah, c'est par rapport à... Oui, d'accord. Oui, effectivement. Donc, je vous présenterai donc cette trois parties en fait concernant donc cet aspect pollinisation, diversité floristique et pollinisateurs. Donc, avec en premier, enfin oui, une présentation en trois parties avec tout d'abord des quelques définitions. Bon, pour rappeler, bon, ça, probablement sur des choses que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, sur des choses que vous connaissez tous. Et puis, quand on parle de diversité florale, eh bien, il est intéressant de voir quelles sont les sources de cette diversité florale, où elle s'exprime, comment elle se manifeste. Et enfin, quelques résultats d'études donc, montrant les effets de la diversité florale sur un pollinisateur qu'est l'abeille domestique en particulier. Alors, sur les définitions, tout d'abord, quand on parle de pollinisateur, la première chose qu'il faut se remettre à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est que la pollinisation ? Eh bien, la pollinisation, c'est le mode de reproduction sexuée des plantes à graines, donc que sont les angiospermes et les gymnospermes. Et en fait, ça consiste à un transport de pollen entre fleurs, une fleur étant productrice de pollen et l'autre étant réceptrice, parfois c'est la même. Et ce qui varie dans le cadre de cette pollinisation, ce sont les vecteurs qui vont permettre le transport de pollen donc d'une fleur à une autre. Alors le pollen étant bien sûr les gamètes mâles et la fleur réceptrice, elle va posséder bien sûr les organes femelles. Alors selon les vecteurs, on va classer les pollinisations. D'abord, il y a plusieurs vecteurs de transport des pollens, donc de ces gamètes mâles. Soit on a affaire à des agents physiques, soit on a affaire à des agents biotiques, c'est-à-dire vivants. Alors sur les agents physiques, il y en a le principal, le plus connu, c'est le vent. Et le mode de pollinisation qui se rapporte au vent, donc c'est l'anémogamie. Ça concerne en gros les pollens qui sont allergènes. Tous les pollens qui sont à l'origine d'allergies. Les principaux, ce sont les pollens de graminées, hein, essentiellement, beaucoup de graminées. Et puis il y en a un qui est assez bien connu également de par sa forme, c'est les pollens de pin également. Quand il s'agit de plantes aquatiques, eh bien sûr, l'agent transporteur de pollen, eh bien, il est tout trouvé, c'est l'eau. Et dans ce cas-là, on parlera d'hydrogamie. Et puis enfin, concernant les agents biotiques, eh bien, on va trouver trois catégories. Alors, celle qui nous intéresse ce soir, c'est plutôt les insectes. On parlera d'entomogamie. Mais il y a également des pollens qui sont transportés par les oiseaux, ornithogamie, et les chauves-souris. Donc, là, chez nous, je ne crois pas, mais enfin, dans certaines contrées. Et on parlera de chiroptérogamie. Alors, quand on parle de pollinisation par les insectes, on pense souvent et généralement à l'abeille domestique. Bon, il est vrai que l'abeille domestique fait beaucoup parler d'elle dans les médias, donc c'est la raison pour laquelle on pense plutôt à cet insecte. Ceci étant, ce n'est pas le seul insecte pollinisateur. On trouve d'autres insectes tels que les coléoptères, des lépidoptères, des diptères, et surtout d'autres hyménoptères, donc d'autres insectes donc proches de l'abeille. Alors, un peu pour se représenter dans le monde animal ce que représentent les abeilles, là j'ai mis ici en pourcentage ce que représente chaque groupe, hein, puisque en fait on est sur des niveaux de définitions différents. Mais vous voyez que les vertébrés représentent 6% du monde animal, ce qui est... l'homme, là-dedans, ça, c'est vraiment quelque chose d'infiniment petit. Et si on considère juste les insectes, donc ça va des autres insectes jusque, bien sûr, aux lépidoptères, ici, ça représente 78% des espèces du monde animal, donc ce qui est absolument phénoménal. Les autres invertébrés étant 16%, donc on a là-dedans les crustacés, les arachnides, enfin les araignées, etc. Donc on voit que le monde des insectes, il est considérablement grand. Et si on considère ceux qui vont nous intéresser principalement pour les aspects de pollinisation, que sont principalement les hyménoptères, il y en a d'autres, mais vous voyez que ça représente 11%, et toujours par rapport ramené aux vertébrés, 6%. Donc c'est pour ce petit rappel, où c'est pour insister, je dirais, sur l'importance des insectes dans le monde vivant en termes de nombre d'espèces. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Alors, quelques exemples de pollinisateurs, alors qui sont des pollinisateurs, je dirais, un peu occasionnels, mais qui jouent quand même un rôle. Donc, quelques coléoptères. Hein. Donc là, on voit un cétoine, une strangalia à droite. Donc, des insectes donc, qui vont polliniser donc, simplement en se baladant sur des fleurs comme ça et en déposant des pollens qu'ils vont transporter de façon accidentelle. Alors, bien sûr, des lépidoptères, des papillons, qui, toujours en se nourrissant, vont occasionnellement pouvoir féconder des fleurs, transporter des pollens et féconder des fleurs. Donc ça, ce sont des espèces locales qu'on trouve localement, telles que le macaron. Alors, un pollinisateur qui est très remarquable et très remarqué dans les jardins et qui a un rôle assez important dans la pollinisation, c'est cette petite mouche donc, qui est que sont les cirfes, hein, puisqu'il y a plusieurs espèces. Là, on voit le cirfe ceinturé. Alors, c'est une mouche en fait que beaucoup de gens prennent parfois pour une abeille et qui a cette faculté de voler sur place. Et c'est vraiment un pollinisateur assez assidu, hein, qui a un rôle assez important dans la fécondation des fleurs. Alors, une petite remarque par rapport à cet insecte, c'est que si on parle de problèmes de disparition chez certains pollinisateurs, ça touche essentiellement les hyménoptères, mais relativement peu ce cirfe qui, lui, a une plus grande faculté d'adaptation, et c'est un insecte qu'on va assez facilement retrouver partout. C'est-à-dire que, comme c'est un insecte qui est très mobile, il est capable de coloniser des nouveaux milieux, et donc il est beaucoup plus. Enfin, ce sont des populations qui ne sont pas en déclin, contrairement à ce qu'on observe chez les hyménoptères. Et puis enfin, la dernière classe, c'est les hyménoptères. Alors, c'est celle dont je parlerai plus ce soir. Donc, ça représente environ 8000 espèces en France, hein, bon, à quelque chose près, parce que vous savez, la détermination d'espèces chez les insectes, c'est quelque chose qui est assez mouvant. On en découvre régulièrement. Alors, ceux qui vont nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les apocrites. Plus spécialement les aculéates. Et enfin, je vais passer vite, hein, ce qui va nous intéresser en termes de pollinisation, c'est la superfamille des apoïdes, et c'est ce qu'on appelle abeilles. Alors, quand on parle d'abeilles, en fait, le commun des mortels pense à abeilles domestiques, alors qu'en fait, ce qu'on regroupe sous le terme d'abeilles, ça représente les apoïdes, donc les abeilles sociales, avec uniquement deux genres, que sont le genre Apis, donc abeille domestique, et le genre Bombus, donc les bourdons. Et de l'autre côté, donc, il y a tous les apoïdes solitaires, donc les abeilles solitaires, avec, vous voyez ici, plusieurs genres. Et tout ça, en France, ça représente à peu près 800 espèces. Alors, je n'ai pas fait le compte au niveau des bourdons et des abeilles, mais admettons qu'on ait ici une quarantaine ou une cinquantaine d'espèces. Vous voyez qu'il reste environ 700 ou 750 espèces d'abeilles solitaires qui sont des pollinisateurs. Et donc, quand on parle de pollinisation par les abeilles, vous voyez que ça représente un nombre d'espèces qui est extrêmement, extrêmement vaste, extrêmement important. Alors, les abeilles solitaires, donc en voilà deux exemples. Alors, ce sont souvent des petites abeilles. Ici, à gauche, on a une mégachile qui est sur une fleur de luzerne. À droite, c'est une andrène. Donc, sont souvent des, on a souvent affaire à des abeilles qui sont terricoles, qui logent dans, des, dans le sol. Donc, ce sont des petites abeilles. Chez les abeilles sociales, bon, celle qu'on connaît le plus, bien sûr, c'est l'abeille domestique, Apis mellifera, donc, qui est l'abeille dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis, l'autre genre d'abeille sociale, parce que c'est une abeille, c'est le bourdon, Bombus terrestris, mais il en existe d'autres. Il existe plusieurs espèces de bourdons, mais qui sont également des pollinisateurs assidus, au même titre que l'abeille domestique. Alors, je croyais que j'avais d'autres photos d'abeilles, mais apparemment, non. Ah oui, ce que je voulais vous faire voir sur celle-là, sur l'abeille Achille, là, c'est que le pollen se fait par une brosse qui est au niveau de l'abdomen. Je ne sais pas si on le voit très bien sur la photo, mais c'est cette partie-là, en fait. Hein. Et là, comme les abeilles solitaires, donc comme les abeilles domestiques, pardon, on a des corbeilles donc au niveau des pattes. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de voir, donc on l'a dit, donc 20 000 espèces dans le monde, 800 espèces en France. Donc concernant, donc maintenant, je vais vous parler que d'hyménoptères et d'abeilles, hein, plus spécialement d'abeilles. Donc 800 espèces en France. Alors, l'impact de la pollinisation par ces abeilles. Donc ça représente à peu près 80% des espèces de plantes à reproduction sexuée dans le monde, donc ce qui est assez considérable. Donc on imagine tout de suite quel impact ça peut avoir en termes d'alimentation. Et donc 84% des espèces cultivées en Europe. Ça veut dire que 84% des espèces qui sont cultivées en Europe dépendent de la présence ou non d'abeilles pris au sens large, hein, donc d'abeilles pollinisatrices. Alors, ce qui a été un peu nouveau, c'est de chiffrer la valeur ajoutée donc de cette pollinisation. Et en 2005, on a estimé que le bénéfice qui naît de la pollinisation, apporté par la pollinisation des abeilles, ça représente 153 milliards d'euros, ce qui représente 10% de la valeur totale de la production alimentaire mondiale. Alors, quand on parle d'environnement, c'est vrai que, bon, on le voit bien au niveau politique, hein, on est toujours prêt à considérer les problèmes environnementaux comme des problèmes majeurs, comme des problèmes prioritaires. Le problème, c'est que, bon, ma foi, tant qu'on n'a pas mis un chiffre devant, tant qu'on n'a pas chiffré le coût, enfin, tant qu'on n'a pas pris conscience de la valeur ajoutée, on s'en préoccupe peu. Et là, on s'aperçoit quand même, on constate que sur cette étude, en fait, il y a eu quand même, on s'aperçoit qu'il y a un impact qui est non négligeable. 10% de la valeur totale de la production alimentaire mondiale, c'est pas rien. Alors, ça avait déjà été fait en 82. On avait estimé la valeur économique du service à 3 milliards de francs, ce qui représentait 46 millions d'euros, ce qui était l'équivalent des exportations françaises de cognac ou le tiers des exportations annuelles de blé de l'époque. Donc c'était déjà assez considérable. Alors pour illustrer ce gain, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'on parle de gain lié à la pollinisation? Alors voilà une étude qui a été faite, c'est tiré d'un travail de Bernard Vessière, donc de l'INRA d'Avignon, on a en abscisse sur ce schéma le nombre d'akènes fécondés. Vous savez que la fraise, c'est un fruit composé, en fait, de plusieurs akènes. Alors le nombre d'akènes fécondés qui va être directement dépendant de la qualité de la pollinisation et en ordonnée le poids des fraises. Et on voit qu'ici, en fonction du nombre d'akènes fécondés, on a des fraises, on va obtenir des fraises qui sont beaucoup plus grosses, d'une part, mais également qui vont présenter des caractéristiques esthétiques, on va dire visuelles, beaucoup plus intéressantes pour le commerce. Donc c'est une façon d'illustrer le gain donc, apporté par l'action des insectes pollinisateurs. Alors, d'une façon générale, les plantes qui sont concernées par cette forme de pollinisation, donc par les insectes, alors on va trouver, donc, vous voyez que ça recouvre à peu près tous les végétaux, hein. Donc les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, etc. Les petits fruits, donc tels que fraisiers, framboisiers, cassis, groseilles, les oléagineux, les légumes, melons, tomates, et également les pollinisateurs interviennent également dans la production de graines et de semences, telles que les luzernes, le trèfle, le violet et le blanc, et les semences légumières. Donc c'est aussi un autre aspect, c'est-à-dire soit ils ont un rôle direct dans la production de légumes ou de fruits, mais également pour la production de semences. Alors, maintenant, passons à la diversité floristique et le comportement alimentaire des pollinisateurs. Alors, la pollinisation résulte de l'intérêt alimentaire de certaines plantes pour les insectes. En fait, on peut dire que la pollinisation, d'une certaine façon, c'est un événement accidentel, en fait. C'est-à-dire que l'insecte ne va pas polliniser la plante, mais l'insecte va se nourrir sur la plante. Et c'est au travers de cette action de nourrissement qu'elle va transporter du pollen de façon accidentelle en visitant diverses fleurs. Donc là, pour illustrer cela, en fait, on voit ici une ouvrière de bourdon Bombus terrestris sur une fleur de tournesol. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette ouvrière? Elle est en train de pomper du nectar dans une fleur. Et en fait, ce qu'elle va transporter, vous voyez, là, on le voit très bien dans sa toison, ce sont des grains de pollen. Et ce sont ces grains de pollen qui sont transportés accidentellement dans la toison qui, lorsqu'elle va se déposer dans une autre fleur, vont pouvoir éventuellement être fécondants. Et ce ne sont en aucun cas les pelotes de pollen qui sont amassées sur les pattes, puisque ces pelotes, en fait, elles sont agglomérées avec de la salive. Et le pollen qui est aggloméré, donc qui est butiné par les abeilles, qui est aggloméré, est un pollen qui perd son pouvoir fécondant donc du fait de cette action de la salive. Donc c'est vraiment ces grains de pollen qui sont accrochés dans la toison, qui vont comme ça, alors ils en ont bien sûr sur le ventre, et qui vont être transportés et qui vont pouvoir donc être fécondants. Donc. Alors une autre définition, c'est la définition de la biodiversité. Il me semblait important également, puisqu'on parle de diversité florale, on peut parler de biodiversité au sens large concernant les fleurs. Donc une définition, alors la biodiversité, c'est la diversité naturelle des organismes vivants, et elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et celle des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'organisation et la répartition des écosystèmes aux échelles biogéographiques. La biodiversité accroît la stabilité des écosystèmes et le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. Donc, je voulais rappeler cette définition puisqu'ensuite je vais vous parler de diversité florale au sens général et de l'impact de cette diversité sur les insectes. Alors, la diversité floristique, elle va naître d'une nécessité donc de coadaptation entre l'insecte et la plante, et donc elle va être le résultat donc d'une coévolution. C'est-à-dire que pour que l'insecte et la plante puissent interagir, il faut nécessairement que chacun d'entre eux développe des caractéristiques qui leur permettent justement de se fréquenter, l'un attirant l'autre et l'autre et l'insecte fréquentant la plante. Et donc la diversité floristique donc va s'exprimer à différents niveaux. Donc les fleurs ont développé un certain nombre de stratégies. Alors les premières qui sont les plus évidentes, c'est la morphologie florale, c'est-à-dire qu'en fonction de la forme et de la couleur des fleurs, on aura telle ou telle espèce d'insecte qui sera attirée par telle ou telle fleur. Et puis enfin, donc ça c'est quelque chose, le premier élément va agir d'une certaine façon comme un élément attractif, hein, un peu comme quand on rentre en cuisine, c'est l'odeur de ce qu'on va manger. Et puis ensuite, il y a directement ce que les insectes vont manger, c'est-à-dire ce qu'elles vont venir chercher sur les fleurs, c'est-à-dire les pollens et les nectars qui vont répondre à des besoins alimentaires spécifiques des pollinisateurs, notamment, principalement, lié à la composition chimique de ces pollens et de ces nectars qui rentrent dans la composition alimentaire des insectes. Alors, sur le premier point, pour la morphologie florale, j'ai retrouvé cette illustration qui concerne une famille de fleurs qu'on appelle des phlox, qui sont des fleurs qu'on trouve en Amérique du Nord, je crois. Et on voit que sur cette même famille de fleurs, on va trouver des fleurs de taille et de forme différentes. Et certaines vont pouvoir être, selon leur forme, être attractives pour les abeilles, d'autres pour des papillons diurnes, des diptères à langue longue avec des calices très allongés, d'autres avec des calices encore plus allongés pour les sphingidés. Vous savez, les sphingidés, c'est ces petits papillons qui ont une grande trompe, là, qui font du surplace et qui vont aller chercher le nectar dans le fond des calices. Alors là, ici, on a des grosses fleurs qui vont être adaptées pour la pollinisation des chauves-souris. Ici, les oiseaux-mouches, donc colibris. Et plus on va aller vers des fleurs à calice court, on va avoir soit des fleurs qui vont être plutôt adaptées à la pollinisation par les coléoptères. Donc, vous voyez, juste des insectes qui vont, juste en passant sur les fleurs, pouvoir transporter des pollens. À ce moment-là, on a des pollens qui sont beaucoup plus accessibles. Et jusqu'à des fleurs avec des calices très courts, où là, on est en autopollinisation, c'est-à-dire que c'est la fleur, c'est le pollen de la fleur qui va être fécondant sur cette même fleur. Donc on peut voir qu'au sein d'une même famille de fleurs, en fonction des formes et des tailles des fleurs, cette famille de fleurs va pouvoir intéresser des familles d'animaux aussi différents que sont les oiseaux, les abeilles ou les chauves-souris, ou les coléoptères, ou même des papillons. Donc c'est une première stratégie qui est développée par certaines plantes, c'est de développer des morphologies donc variables pour répondre à diverses... pour être attractive et adaptée à diverses formes de pollinisateurs. Alors, le deuxième élément qui va intéresser les insectes dans certaines fleurs, pas toutes les fleurs, c'est le nectar. Alors, le nectar, c'est pas produit par toutes les fleurs, hein, c'est certaines fleurs qui produisent du nectar. Ici, on a une fleur de colza, et on a à la base des étamines, des éléments glandulaires, qu'on appelle les nectaires, donc, et qui sont des éléments sécréteurs du nectar, donc, qui est un liquide sucré, qui a une composition qui varie de 15 à 75% de sucre, et qui représente 80% de l'apport total en sucre pour les insectes pollinisateurs. Petite parenthèse, le nectar, c'est ce qui va donner le miel chez l'abeille domestique. Je le dis parce que beaucoup de gens pensent que le miel, c'est une mixture de pollen et de nectar, alors que le pollen, quand on rentre dans le miel, est purement accidentel. Donc, c'est vraiment c'est la source quasi unique du miel. Alors, ces nectars, donc c'est un liquide sucré, mais qui va pouvoir présenter des caractéristiques différentes. Ici, on a les besoins en nectar chez l'abeille domestique en fonction des différents stades. Et on voit que les besoins varient selon les stades et on constate en tout cas que les quantités de sucre, les apports de sucre pour les différents stades sont essentiellement issus de ce nectar avec quelques variations. Hein. Alors, ici, on a un tableau qui reprend les différents nectars et qui ont été classés par les proportions de sucre avec un rapport saccharose sur glucose plus fructose et les types de visiteurs en fonction de la composition du nectar en sucre. Les nombres représentent les pourcentages du nombre total d'espèces de fleurs visitées. Et on peut voir, par exemple, que chez certains papillons, les sphinx, par exemple, vont plutôt préférer des nectars avec un rapport saccharose sur glucose plus fructose plutôt de 1, c'est-à-dire que une grande partie donc, vont fréquenter des nectars donc, avec un rapport identique. Inversement, si on prend les abeilles à langue courte, on a plutôt des espèces qui vont fréquenter des fleurs ayant des nectars avec un rapport de 0,1. Donc, on voit comme ça qu'on a plusieurs tendances et que ce nectar qui est un liquide sucré peut malgré tout varier dans sa composition et être plus ou moins attractif selon qu'on a affaire à une espèce d'insecte ou à une autre. Toujours sur les nectars, on a ici le lien entre les types de pollinisateurs et la teneur en acides aminés du nectar, parce qu'il y a également quelques acides aminés dans le nectar. Et là, on constate que toujours les sphinx donc, vont fréquenter des nectars avec des teneurs en acides aminés très faibles. Et à l'opposé, on va avoir les mouches, les espèces qui se nourrissent d'extrêmement et de cadavres, qui vont fréquenter des nectars avec des fleurs ayant des nectars avec une forte richesse en acides aminés, ce qui est tout à fait cohérent puisqu'on a affaire à des espèces qui, dans la mesure où elles se nourrissent de cadavres, vont rechercher plutôt ces sources protéiques. Donc ici, on voit que les insectes vont avoir des niveaux de fréquentation variables en fonction de la qualité des nectars. Donc c'est une source de variation, c'est-à-dire que le nectar peut, en fonction de sa composition, être attractif pour tel ou tel type d'insectes. Alors la deuxième source d'aliments, c'est le pollen, donc toujours pareil, ma fleur de colza, pollen qui est produit par les étamines, et donc ici on a en haut des grains de pollen de colza, et les pollens, donc les nectars constituent la principale source de sucre, et les pollens, eux, constituent la principale source de protéines et également de lipides exogènes. Alors, si on regarde les besoins en pollen, même tableau que tout à l'heure avec les nectars, mais chez l'abeille domestique, les besoins en pollen en fonction des stades. Alors, on voit que le pollen, finalement, il est relativement peu consommé. Il est consommé par les larves d'ouvrières en assez faible quantité. Encore que ce ne soit pas exact, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Pour les larves de mâles, on ne connaît pas trop la quantité. Par contre, les ouvrières, bon, vous savez que les ouvrières d'abeilles passent par divers stades, nourrices, cirières, couveuses, etc. Les nourrices, étant les jeunes abeilles qui vont être chargées de nourrir les larves dans la ruche, elles font une forte consommation de pollen. Et en fait, la raison en est qu'elles restituent ce pollen d'une certaine façon aux ouvrières. Alors, comment font-elles en fait? Si on regarde ici une tête d'abeille, une tête de nourrice, elles ont ces nourrices dans la tête un organe particulier qu'on appelle des glandes hypopharyngiennes et qui sont ici constituées de sacs sécréteurs. Et donc ces glandes, elles sont chargées. Donc les nourrices, on l'a vu, sont les principales consommateurs de pollen. Ces glandes vont élaborer un produit que beaucoup connaissent, c'est la gelée royale. Et cette gelée royale est redistribuée donc lors du nourrissage des larves par les nourrices. Alors quand on dit que les larves consomment peu de pollen, c'est tout à fait inexact puisque en fait on peut comparer. C'est comme si on disait que le veau consommait pas d'herbe. C'est vrai, il consomme pas d'herbe, mais il consomme le lait. Et donc, on peut considérer ces glandes hypopharyngiennes un peu comme les mamelles de la vache, c'est-à-dire qu'elles transforment une matière en une autre, au même titre que la vache transforme l'herbe en lait, et là, on transforme le pollen en gelée royale. Et donc, le pollen qui est ingéré par les ouvrières est redistribué aux larves sous forme de gelée royale. Alors, toujours pour revenir à cette diversité floristique, comment elle s'exprime au niveau des pollens? La première chose, c'est la forme des pollens, donc la forme et la taille. Donc ici, j'ai illustré cette variabilité de forme et de taille par plusieurs espèces, le myosotis, le colza, le tournesol et la mauve. Alors ici, on a vraiment les deux extrêmes, hein, puisque là, on a un pollen, le myosotis, qui fait 5 microns, et là, on a la mauve qui peut aller jusqu'à 178 microns de diamètre. Donc vous voyez qu'on a vraiment une variabilité de taille importante. Autres éléments qui peuvent être différents chez les pollens, c'est la présence d'ornementation, de structures externes qui vont plus ou moins bien permettre l'accrochage, notamment dans le poil. Et donc, il y a également un autre élément qu'on peut pas voir ici, c'est la présence de corps gras. Et donc, tous ces éléments-là vont faire qu'on a affaire à des pollens qui sont plus ou moins collants et donc qui vont être plus ou moins faciles, disons, à être captés par l'insecte pour ensuite être redistribués sur d'autres fleurs. Donc, c'est une première source de variabilité. Puis la seconde source de variabilité, bien sûr, elle va s'exprimer par la qualité chimique des pollens. Donc ici, on a une liste, par exemple, de différents pollens, vous voyez, marronnier, sainfoin, jacinthe, etc. Et les taux de protéines, donc vous voyez que sur cette liste-là, on a des taux de protéines qui varient de 13 à 36%. Donc une large variabilité également au niveau du taux de protéines. Mais ce qui ne figure pas ici également, c'est qu'on a une large variabilité au niveau des acides aminés qui sont présents dans ces protéines. On a des pollens qui sont plus ou moins riches en quantité, mais également en qualité de protéines. Alors, pour illustrer ça, c'est un test qu'on avait réalisé au Manureau non pas sur l'abeille domestique, mais sur le bourdon, sur Bombus terrestris, où on avait testé 6 pollens purs et 9 mélanges sur des petites colonies de bourdons. Et donc, on avait ici, en pur, on avait des pollens qui avaient des taux de protéines qui variaient de 14 à 24%, et en mélange, on avait des taux de protéines globales qui variaient de 14 à 17,6%. Donc, des taux de protéines en mélange qui étaient au plus bas équivalent et au plus haut légèrement inférieur au pollen pur. Et on avait calculé un espèce de rendement, en fait. On avait estimé l'efficacité des protéines par un rendement qui était le poids des larves sur le poids de protéines consommées. Donc ça permettait d'avoir tout simplement une espèce de rendement. Et on s'aperçoit que les rendements ici sur pollen pur sont toujours inférieurs à ce qu'on a sur pollen mélangé. Donc, ce qui veut bien dire qu'à richesse en protéines équivalentes, voire inférieure pour les mélanges, on observe que les mélanges sont plus avantageux que les pollens purs. Et là, on met en évidence non pas l'intérêt de la quantité de pollen, mais l'intérêt de la diversité des pollens. Et là, on commence à toucher du doigt la notion de diversité, puisque même si on a des richesses globales de protéines inférieures, eh bien, il est plus probable qu'on ait une meilleure représentation, disons, du spectre des acides aminés lorsqu'on a affaire à des mélanges de pollen plutôt qu'à des pollens purs. Alors, pour maintenant avoir une illustration un peu des effets de cette diversité floristique sur l'abeille domestique. Comment est-ce qu'on peut évaluer ces effets à une échelle environnementale? Alors, je vais vous exposer vite fait un travail donc, qu'on conduit dans la plaine de Niort, donc assez près d'ici, dans lequel ce travail, donc, on va s'intéresser donc, au développement de colonies d'abeilles en fonction de composantes paysagères. Et bien sûr des espèces végétales qui sont présentes. Alors c'est un travail qui est conduit en collaboration avec le CNRS de Chizé et l'Association de développement apicole de Poitou-Charentes. Alors la plaine, ce qu'on appelle la plaine Val de Sèvres, c'est une zone atelier en fait qui est en sud de Sèvres. Et cette zone atelier qui fait 460 km² est constitué donc de 19 000 parcelles. Et la particularité de cette zone atelier, c'est d'être une zone qui est observée depuis plus de 10 ans maintenant par le CNRS de Chizé. C'est-à-dire qu'on a, sur toute cette zone, un historique assez complet sur les assolements, sur les pratiques agricoles qui sont conduites sur toute cette zone. Donc, pour nous, c'est un fantastique champ expérimental. Alors, on y trouve toutes sortes de paysages, hein, des routes, des bois, des zones cultivées, des villages, des zones d'élevage, enfin bref, toutes sortes de paysages. Donc voilà, on a choisi donc de classer en diverses catégories pour cette étude. Donc voilà les catégories qu'on a retenues, donc les zones de maïs, de tournesol, de bois de haie, les zones non étudiées, donc que sont les, par exemple les bordures d'autoroute, les zones à céréales, les zones à colza, prairies, légumineuses, ce qu'on a appelé sous autres cultures, mais c'est ce qui ne rentrait pas dans nos cultures. Et puis également, on a répertorié dans tout ce qui est zone jardin et zone périurbaine. Et donc, on a pris en compte ces différents types de paysages, disons, pour essayer de voir quelle était l'influence de la structure paysagère sur le développement de colonies d'abeilles. Alors, la façon de procéder, donc, c'est la suivante. Donc, on retrouve cette zone atelier, donc Plaine et Val de Sèvre. On a en fait cette zone divisée en 50 carrés de 10 km carrés. Donc, c'est un peu. Oui, c'est très arbitraire, je dirais même, ça a été fait comme ça. Et on choisit chaque année de tirer 10 carrés au hasard et on dispose de 5 ruches par carré en essayant d'être au plus près du centre de chaque carré. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait en 2008, en 2009. Donc on a prospecté sur 10 autres carrés et en 2010 sur 10 autres. Donc on arrive à une trentaine aujourd'hui. Et on a l'ambition de faire les 50, voire même peut-être de recommencer les 10 premiers. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur nos ruches? On observe sur nos ruches donc régulièrement la surface de couvain. Bon, le couvain, c'est les zones de cadre qui sont occupées par des larves et des œufs, hein. Donc, il est bien évident qu'une surface de couvain, c'est un indicateur intéressant de la dynamique d'une colonie, hein. On observe sur les ruches les poids des cadres, des réserves, donc différentes pesées. On fait également une observation de la population d'abeilles. On fait également une observation de la mortalité. Alors, la mortalité chez les abeilles, ce n'est pas évident à observer parce que les abeilles, ça vole loin. Alors, il y a celles qui meurent au loin, évidemment, on va pas battre la campagne pour retrouver nos abeilles. Donc, ce qu'on fait, c'est en fait, on dispose devant chaque ruche un plateau qui fait 50 cm sur 1 mètre. Et on recueille en fait les abeilles qui sont mortes et qui sont mortes à proximité de la ruche ou qui sont éjectées de la ruche. Alors, s'il y a des spécialistes de l'abeille dans la salle, ils me diront bien sûr, c'est très insuffisant. Mais ça n'a pas vocation à donner une mortalité exhaustive et complète, puisque ça, on n'a aucun moyen pour l'apprécier. Simplement, ça permet d'avoir une idée, un indice de mortalité. Il est évident que quand on a beaucoup de mortes à côté de la ruche, ça peut traduire un malaise au même titre que si on avait beaucoup de mortes dans le champ. Ce n'est pas forcément les mêmes causes, mais enfin, on n'a pas trouvé mieux pour le moment. Puis enfin, le dernier indice qui est, lui, très intéressant, quand on parle de biodiversité, bien sûr, c'est d'évaluer, d'identifier, de quantifier les pollens qui rentrent à la ruche. Alors pour ça, on dispose à l'entrée des ruches donc d'un petit dispositif qui est ça, donc ce qu'on appelle des trappes à pollen. Donc vous voyez ici, ce que vous avez ici en haut, c'est une grille à pollen. Donc c'est une petite grille qui est percée de trous. Et lorsque les ouvrières rentrent dans cette grille, elles perdent. Alors une partie des ouvrières, hein, ça. Heureusement, toutes les ouvrières ne se font pas piéger, mais une partie des ouvrières perdent leurs pelotes de pollen et ces pelotes qui sont ensuite récupérées dans un tiroir qui se trouve dessous. Et là, on voit trois tiroirs avec des mélanges qui sont assez contrastés en couleurs. Vous voyez ici, là, il y en a pas mal de jaune. Là, on a du jaune et du noir. Là, on a du noir. Et là, c'est certainement du pollen de coquelicot. Et ensuite, ces pollens sont amenés au laboratoire. Et on va, sur ces pollens, prélever des échantillons, identifier les espèces présentes, quantifier les espèces présentes et faire une quantification, pas seulement numérique, mais une quantification volumétrique. Pourquoi volumétrique? Parce que vous avez vu qu'il y a une forte variabilité de taille. Je vous ai montré tout à l'heure du pollen de myosotis et du pollen de mauve. C'est comme si on comparait un grain de riz à une pomme de terre. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une équivalence en nombre. Donc, il faut mieux ramener ça à la taille. Alors voilà, par exemple, ce qu'on peut observer sur la surface de couvain, donc en fonction de la diversité, donc qui est ici donc traduite par un indice qui est l'indice de Shannon. Alors on n'a pas des très belles corrélations comme on peut avoir dans un laboratoire, mais enfin on observe quand même une tendance, c'est-à-dire que plus on augmente la variabilité donc des pollens, et plus on a une tendance vers des surfaces de couvain donc plus importantes. Donc ce qui traduit bien que ce qui est d'ailleurs assez logique par rapport à ce que je vous ai dit sur le bourdon, sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le bourdon, donc la diversité pollinique, là encore, là on ne parle pas du tout de quantité de pollen, on parle bien de diversité, a bien un effet positif sur la taille des couvains. Et puis enfin, pour finir sur ces résultats, voilà ici un graphique qui reprend les données sur les trois années. Alors, il est assez compliqué, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce que vous avez en rose et en rouge, ce sont les plantes cultivées. Ce que vous avez en bleu, ce sont les fleurs, on va dire les messicoles d'une façon générale. Et ce que vous avez en vert, ce sont les plantes sauvages, mais plutôt de type arbre, érables, cerisiers, etc. Et donc en abscisse, donc tout simplement les périodes d'observation d'avril au mois d'août. Et là, on a donc le cumul des quantités de pollen qui sont ramenées à la ruche et qui ont été donc ensuite classées par type d'origine, donc plantes cultivées, messicoles et type arboré. Puis là, on a également quelques plantes d'ornement là, qui sont donc en violet. Donc, ce qui est assez remarquable de voir ici, c'est que en sortie d'hivernage, donc qui est une période sortie d'hivernage, c'est bon, faut se rendre compte que les abeilles ont passé plusieurs mois donc en population réduite à lutter contre le froid. Et en sortie d'hivernage, elles ont besoin donc de retrouver pas mal de protéines pour reconstituer justement ce couvain. Donc c'est une période qui se situe à peu près au mois d'avril. Les plantes cultivées à cette période-là, on voit que ça représente quasiment rien. C'est vraiment, on a un peu de colza, mais on s'aperçoit que le colza, finalement, on en trouve très peu dans les pollens. Par contre, on s'aperçoit que les plantes sauvages sont très, très abondamment amassées. Et donc, on voit tout de suite l'importance donc, de la présence de ces plantes sauvages, au moins pendant cette période-là. Alors, la seconde période, donc, c'est au mois de mai, fin mai, début juin. Bon, là, on a un peu de tout. On trouve beaucoup de plantes cultivées. C'est la période où on trouve d'ailleurs le plus de plantes cultivées chez nous. Donc, avec différents types de cultures. Hein. Et par contre, malgré que ce soit la période principalement où on va retrouver beaucoup de cultures, on voit malgré tout qu'on a aussi beaucoup de plantes sauvages, et on voit que dans la proportion de pollen ramenée à la ruche, toutes ces plantes sauvages sont quand même non négligeables. Et j'attire votre attention sur cette zone bleu foncé, qui représente le coquelicot. Donc, en fin de période... Non, c'est pas ça. Voilà. En fin de période, donc, on retrouve une période de relative abondance avec quelques plantes cultivées. Et là, on voit parmi les plantes cultivées l'importance du maïs, qui est très, très collecté par les abeilles. Le pollen, j'entends, hein. Il n'y a pas de nectar. Par contre, ce qui est assez remarquable à voir, c'est que pendant cette période de juin-juillet, c'est-à-dire en gros entre le colza et le tournesol, hein, ce que tout le monde soupçonne bien, c'est qu'on a effectivement une baisse sensible des apports de pollen à la ruche, et que ce qui persiste comme richesse alimentaire, c'est exclusivement les plantes sauvages, là, avec, vous voyez, le coquelicot représente, hein, c'était la trappe noire que je vous ai montré tout à l'heure, une part assez considérable. Et là, on a vraiment affaire à une période déficitaire et on mesure toute l'importance de toutes les messicoles et notamment du coquelicot donc pendant cette période déficitaire. Donc c'est quelque chose qu'on soupçonnait hein, dans nos zones de grande culture où on a effectivement une abondance de richesses et de pauvreté alimentaire. Mais là, on le voit bien. Et on a également, alors je ne les ai pas là, on a également des études qui montrent qu'on a des développements de couvains qui suivent plus ou moins ce spectre-là, c'est-à-dire avec une croissance et une décroissance, et à nouveau une croissance avec les apports de pollen. Alors, pour finir sur cet exposé, donc on voit que, d'après ce travail, que la diversité florale elle est appréciée par les pollinisateurs à deux titres, donc sur un plan qualitatif, puisqu'elle va favoriser le développement des abeilles ici, et sur un plan quantitatif, elle permet de pallier notamment aux zones de monoculture intensive à la diminution des ressources en période d'interfloraison des espèces cultivées. Alors la conclusion générale, c'est que j'avais deux idées hein, à vous transmettre. La pollinisation par les insectes, comme vous savez qu'on oppose souvent écologie et production en pensant que finalement c'est un choix, soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Quand on sait, donc, d'après tout ce qu'on a pu observer en termes d'impact économique des pollinisateurs sur la pollinisation, sur la production de plantes, notamment de plantes qui rentrent dans notre alimentation, pardon. Donc, la pollinisation par les insectes est un sujet qui illustre bien l'absence d'antinomie entre les deux concepts, écologie et production, et que pour faire de la production, on a besoin d'écologie, mais quelque part, les insectes pollinisateurs ont aussi besoin d'avoir des zones d'alimentation et des zones de production, pourquoi pas. Et puis enfin, le souci, et c'est la démarche qu'on entreprend maintenant dans nos recherches, c'est de définir des systèmes de production durables, c'est-à-dire qui vont être des systèmes de production qui vont permettre à tous les acteurs du monde rural de vivre, notamment agriculteurs, apiculteurs et apiculteurs. Donc ça va dépendre, la durabilité des systèmes de production va dépendre en partie de l'adaptation de ces systèmes, de l'aménagement du territoire en vue de préserver l'entomofaune pollinisatrice, puisqu'il y a effectivement un échange réciproque entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une agriculture qui puisse produire sans pollinisateurs. Et donc, il y a besoin effectivement de définir des systèmes qui permettent à la fois à l'agriculteur de vivre décemment, mais également à l'apiculteur et puis d'une certaine façon au patrimoine pollinisateur de continuer de vivre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, je finis sur un beau champ de coquelicots. Vous voyez que c'est une espèce qui n'est pas morte, mais en fait, ce qui est marrant d'ailleurs, vous savez que les abeilles ne fréquentent pas du tout les champs de blé, puisque le blé n'apporte absolument rien aux abeilles. Je vous ai dit, c'est un pollen anémophile, il n'y a pas de nectar. Par contre, on a trouvé parfois des corrélations positives dans le développement des colonies avec la présence de champs de blé. Et l'explication, elle est que dans les champs de blé, il y a des coquelicots. Voilà, je vous remercie.
Si on pouvait s'en passer, je veux bien faire l'effort d'essayer. Si vous ne m'entendez pas, vous rappelez. Donc par rapport à votre conclusion, moi j'ai compris que la diversité en fait, floristique, elle influe beaucoup sur la dynamique des populations des pollinisateurs. Et vous le mettez en lien avec des pratiques sur les systèmes de culture. Est-ce que vous avez déjà mené des travaux est-ce que vous avez déjà des hypothèses sur l'effet? Moi je vois trois choses et il y en a peut-être d'autres. De la variabilité. La variabilité sur les types de cultures, sur l'effet des haies et du coup avec quel maillage et puis l'effet du désherbage. Est-ce que sur ces trois facteurs, est-ce que vous avez soit mené des travaux, soit des hypothèses sur leur impact sur la dynamique des populations?
Alors, actuellement,
sur il faut faire un micro peut-être pour, ouais, c'est pour ça. Alors, concernant la dynamique des populations, ça s'adresse essentiellement aux abeilles sauvages. On peut difficilement parler de dynamique de population en abeilles domestiques, puisqu'on gère les populations d'abeilles domestiques. Non, pas vraiment sur les abeilles sauvages, puisque c'est quelque chose, concernant l'aspect abeilles sauvages, c'est quelque chose qu'on démarre là, cette année. Et actuellement, le choix sur un plan, d'un point de vue expérimental, ce qu'on a choisi, c'est de ne pas avoir d'a priori sur tel ou tel type de paysage. D'abord, on ne sait pas si on a forcément les mêmes besoins entre abeilles domestiques et abeilles sauvages. Ce n'est pas évident. Par exemple, il y a un élément qui est essentiel pour les abeilles sauvages, c'est le travail du sol, puisque je vous dis qu'il y a pas mal d'espèces terricoles. Et selon le type de travail qui va être de labour ou de période de labour, on va influer directement sur les populations d'abeilles sauvages. Oui. Et qu'inversement, le maintien des haies et des zones non retournées, non cultivées, vont favoriser leur implantation. Donc, ce qu'on a choisi, c'est de ne pas avoir d'a priori sur tel ou tel type de paysage, ou tel type de culture, ou tel type de pratique, mais plutôt d'avoir une attitude prospective, c'est-à-dire de tester des zones et de voir quels sont les éléments du paysage qui vont effectivement pouvoir être pris en compte ou expliquer certains phénomènes, et ensuite les prendre comme éléments de recommandation agricole. Voilà la démarche qu'on a plus tôt. Qu'est-ce que vous aviez comme autre question ? Je ne sais plus.
Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà des éléments aussi à la recherche de ça, enfin, en termes de diversité des paysages, pour moi, il y a diversité des paysages, mais est-ce que vous avez déjà des éléments sur ça seulement, la présence ou pas de haies avec un paysage plus ou moins serré, et des pratiques de désherbage plus ou moins intensives. Donc voilà, est-ce qu'il y a des hypothèses sur ces trois domaines-là ?
Est-ce qu'il y a des hypothèses sur les désherbages ? On peut évidemment penser que les désherbages vont être de nature effectivement à éliminer pas mal de plantes sauvages et donc à réduire cette biodiversité. Donc c'est assez clair. Après, sur les types de cultures, Il me paraît assez difficile d'aller transformer une région qui produit, qui a une forte production en tournesol maïs du jour au lendemain à les faire changer d'habitude. Je veux dire, ça prend en compte énormément de choses. Par contre, sur la façon de gérer ces cultures et la façon d'aménager l'entourage de ces cultures et les zones non cultivées, là, par contre, je pense qu'il y a un champ de liberté un peu plus large. Et notamment l'utilisation ou la non-utilisation ou la moindre utilisation de désherbants. Je crois qu'il faut pouvoir faire bouger les choses dans une limite raisonnable. La limite raisonnable étant la limite économique, en fait. Voilà.
Mais en parlant de diversité sur les cultures, est-ce qu'il n'y a pas une relation inverse entre la taille des parcelles et la biodiversité ?
Bien sûr. Oui, bien sûr. Si on a des grandes parcelles, c'est évident qu'on va avoir une biodiversité tout à fait moindre. Mais l'idée de ce travail, enfin, on peut schématiquement dire qu'en si on repart sur l'abeille domestique, on peut schématiquement dire qu'en France, il y a deux types d'apiculture. Il y a une apiculture de zone de grande culture et une apiculture de zone de polyculture, on va dire. Ou d'élevage, qui va être un peu la même, avec des parcelles plus petites, avec une variabilité plus grande en termes de diversité floristique. Il est évident que dans les zones de grande culture, on a des grandes parcelles, on a de la monoculture, et on a une faible variabilité pendant ces périodes d'abondance. Alors, je pense que, pour reprendre ce... Enfin, notre... Non, c'est pas ça, là je reviens à la fin... Pas, il n'y a rien à faire. On va aller directement là. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Ce qui va nous pas mal nous préoccuper, en fait, Ah zut, c'est pas vrai. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est en fait c'est cette période d'interculture. C'est ça en fait qui nous préoccupe plus spécialement. Voilà. En fait, c'est cette période-là où finalement on s'aperçoit ici que finalement, bien qu'on soit en zone de monoculture, les besoins sont satisfaits. Enfin, il y a une forte abondance. Bon, il y a cette période-là qui est un peu critique, mais qui est très courte, hein, finalement. Hein, on voit tout de suite que ça redémarre vers une période d'assez forte production. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est cette période qui est beaucoup plus longue, où là, les abeilles sont relativement démunies. Alors, c'est pas très inquiétant si on est dans des zones... Alors, ce que j'ai pas dit dans la zone atelier de Chizé également, c'est que malgré qu'on soit dans la même région, on arrive quand même à avoir des milieux qui sont quand même différents. Et on va avoir effectivement, selon la présence de fleurs sauvages plus ou moins importantes et plus ou moins variées, on va avoir des réponses, on va avoir des sites qui vont être plus ou moins intéressants pour les colonies. Mais ce qui va nous intéresser, c'est effectivement de définir en fait ce qu'il est nécessaire de faire pour pallier donc à cette période de carence. Et donc, les différentes actions, ça peut être effectivement une des voies qu'on va essayer de trouver, c'est d'aménager les zones qui ne sont pas cultivées, notamment.
Est-ce que éventuellement les zones urbaines en fait pourraient intervenir pendant cette période-là avec l'espacement des tontes de manière à avoir des plantes sauvages en zone urbaine, ou est-ce que le champ est trop large pour que la zone urbaine puisse apporter aux cultures?
Il faudrait estimer déjà ce que représentent en quantité les zones urbaines, mais oui, ça peut. En fait, ça peut être. Je pense que ça a commencé dans certaines zones, effectivement, où finalement la tonte est moins systématique. Oui, ça peut être une solution. Toujours pareil, hein, s'il y a un effet de masse et si effectivement on prend conscience qu'il faut effectivement favoriser ce genre de conduite, eh bien ma foi, ce qui est difficile à apprécier. Effectivement, si c'est ça votre question, c'est quelle surface et quel type de fleurs pour atteindre un objectif, et quel objectif en fait. On sent bien qu'il y a quelque chose, mais en fait, pour quantifier tout ça, c'est relativement difficile. C'est pour ça que finalement, nous, on va essayer on choisit plutôt de caractériser les milieux pour en retirer justement ces éléments. Mais il faut être clair, on ne les a pas pour le moment. Par exemple, la question de savoir... Un truc, par exemple, qu'on connaît assez mal, c'est la notion de compétition entre ruches d'abeilles. C'est-à-dire qu'on met des ruches dans des environnements. Bon, on sent bien qu'il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas trop charger la mule, mais enfin, on en met, mais on ne sait pas si, pour tel environnement, on peut en mettre 10, 20, 30, 50, 200. C'est quelque chose... C'est une notion, finalement, qu'on connaît mal. Et... Peut-être finalement qu'on est aussi à côté de la plaque, parce que peut-être qu'il y a des zones qui sont surexploitées par l'apiculture et qui ne fournissent pas suffisamment pour le nombre de ruches en place. Hein. Mais ça, c'est vrai que c'est des éléments qu'on ne connaît pas.
J'apporte un tout petit bémol à ce que tu dis. Les professionnels, généralement, ils ont des ruchers de 30 à 40 ruches, donc ils mettent au même endroit, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a assez de plantes quand ils vont les mettre à côté d'un champ de colza, au tournesol ou à côté d'acacia. Par contre, les apiculteurs, toujours des professionnels, quand ils veulent sélectionner des ruches, c'est-à-dire se rendre compte lesquelles sont les meilleures, ben, ils dépassent rarement des ruchers de, disons, 12 à 15. Parce qu'à partir de ça, ils se disent qu'il y a assez de ressources... pollinique ou nectar pour nourrir les 30 ou 40 ruches. Par contre, il y a déjà de la concurrence entre elles. Donc c'est une question d'appréciation pratique de la part d'apiculteurs, ce n'est pas scientifique.
Je suis bien d'accord. Mais le bon sens veut qu'on se dise effectivement, bon, on n'en met pas trop, quoi, mais on sait pas. C'est comme la richesse d'un milieu. La richesse d'un milieu, il y a deux façons de l'apprécier. Hein. En diversité floristique, bon, c'est vrai que on peut avoir beaucoup d'espèces dans un milieu, mais finalement, en quantité, être relativement pauvre. Quelle est la différence entre un champ de tournesol et une prairie avec des fleurs sauvages? C'est évident qu'en termes de richesse, le champ de tournesol est beaucoup plus riche. En plus, les abeilles, elles n'ont pas trop à se fouler pour aller faire le plein, que ce soit en pollen et en nectar, elles ont tout sur place, alors qu'elles ont beaucoup plus d'énergie à dépenser sur une plaine. Mais elles ont aussi beaucoup plus de variété. Et c'est finalement des choses qu'on a du mal. Certainement, une des hypothèses qui est quand même avancée, c'est que pendant cette période d'abondance ici, on a des organismes qui sont en période d'abondance, donc qui se développent abondamment, et ensuite qui sont confrontés à une période de disette. Et donc on a un organisme qui est en plein développement, qui ensuite se retrouve dans une période de disette, et donc connaît de réelles difficultés de développement. Ce que remarquent aussi les apiculteurs, et ça on a pu le remarquer nous sur Alinra, c'est pendant cette période de disette, les abeilles ont un comportement de pillage qui est vraiment très très exacerbé. Quoi. C'est-à-dire que si moi j'ai vu des abeilles remplir un garage alors qu'il était fermé hein, au Manureau. La porte du garage était fermée, il y avait des cadres de miel qu'on avait stockés là. Elles sont rentrées par des interstices très petits, mais elles avaient rempli le garage, quoi. Et c'était pendant cette période. Donc elles vont vraiment, elles connaissent vraiment des périodes de manque. Et c'est vraiment sur cette période-là qu'on voudrait apporter un plus, quoi, en fait.
J'ai une autre question sur la répartition de la biodiversité, à la fois des fleurs et des insectes qui vont avec, en fonction de des zones de culture et un peu plus des zones qui ne sont pas de culture. Est-ce qu'on sait ce qui apporte le plus de biodiversité? Est-ce que c'est quand il y a des forêts? Est-ce que juste des haies, ça suffit? Est-ce que des grandes forêts mono-variétales, c'est aussi mauvais que les champs de maïs? Est-ce qu'on a des notions là-dessus?
Les bordures de forêt. Les bordures de forêt sont bénéfiques, oui. Les forêts en elles-mêmes, les grandes forêts, non. C'est plutôt les bordures, les zones de bordure.
Oui, moi j'ai une petite question, peut-être un petit peu provocatrice, parce qu'on parle de l'abeille et de tous ses bienfaits. Est-ce qu'on a des données chiffrées ou au moins des idées sur l'impact négatif des abeilles sur le reste de l'entomofaune, et notamment les abeilles solitaires? Parce qu'on trouve des abeilles domestiques partout, et donc elles vont forcément entrent en compétition avec les espèces solitaires. Et
c'est une bonne question, oui. À ma connaissance, non. Enfin, je n'en connais pas. Mais bon, on n'est pas sûr qu'elles fréquentent nécessairement les mêmes zones. Hein. Mais... C'est une question. Non, c'est une question qui a déjà été évoquée dans l'autre sens d'ailleurs. Notamment la présence de bourdon. Le bourdon a été importé accidentellement en Nouvelle-Zélande, je crois. Et effectivement, les apiculteurs ont été paniqués par la présence de ce bourdon. Effectivement, la question s'est posée dans l'autre sens. Mais le fait que les abeilles domestiques, je suis en train de chercher, je n'ai pas ma connaissance de travaux qui ont montré ça. Bon, il faut dire une chose, c'est que les abeilles sauvages, les abeilles solitaires d'une façon générale, sont assez peu et difficiles à étudier. C'est vrai que c'est déjà, il y a au moins deux problèmes majeurs qui se posent, c'est déjà leur taille, leur identification et leur taille. Leur mode de vie, bon, c'est moins spectaculaire qu'une ruche, hein, puisqu'on a des bestiaux qui vivent, qui sont solitaires et qui vivent dans le sol. Et donc, c'est vrai que on ne peut pas aborder l'étude des abeilles solitaires comme on aborde l'étude des abeilles domestiques ou même des bourdons qu'on peut élever. Une des façons de... Alors, peut-être qu'on le verra à l'issue de cette étude, parce que ce travail qu'on conduit avec Chizé maintenant s'insère dans un travail qui est beaucoup plus vaste, qui regroupe une dizaine de partenaires, donc toujours sur la plaine de Chizé, hein, et avec une composante abeilles sauvages. Alors, peut-être à ce moment-là, comme il y aura, alors la façon d'échantillonner les abeilles sauvages, ben c'est très simple, hein, c'est de se balader dans la nature avec un filet, et puis ou mettre des pièges, enfin bon. Et à ce moment-là, peut-être que, bon déjà, il y aura un recensement des espèces présentes, et peut-être qu'on pourra établir une relation entre la présence d'abeilles domestiques et la présence d'abeilles sauvages, une relation positive ou négative. Il y aura peut-être un lien qui sera fait entre les deux. Mais ce n'est pas évident, hein. C'est sûr que les abeilles sauvages ne sont pas évidentes à déterminer, à étudier.
Merci.
On peut le constater sur les îles, où c'est un peu plus facile à avoir la compétition. Et dans le sens autre insecte sur l'abeille, on a introduit une mouche à La Réunion il y a quelques années, qui se met sur une plante qui était très mellifère. Les apiculteurs réunionnais sont fort mécontents, parce que la mouche, elle prend la place, donc l'abeille ne fait plus de miel. Donc obligatoirement, ça nuit peut-être pas à l'espèce, mais à son développement. Et ensuite, dans l'autre sens, alors je n'ai pas de données chiffrées, mais sur l'île d'Ouessant, il a été créé un conservatoire pour les abeilles, pour conserver un certain type d'abeilles. Donc au début, il y avait 20 ruches, maintenant il y a 200. Et on a freiné, parce que en particulier, il y a des entomologistes qui ont dit que trop d'abeilles à Ouessant, elles prennent toute la place, et donc elles sont... au détriment d'autres insectes sauvages, quoi. Ça, c'est sûr. Après, sur les zones de grande culture ou même des zones comme Chizé, aujourd'hui, comment le quantifier, c'est un équilibre qui s'est fait, quoi. Mais quand on va sur des îles, on peut se rendre compte qu'on peut perturber l'équilibre dans un sens ou dans l'autre.
Dans des situations très, oui, très fermées, très extrêmes, quoi. Là, on est vraiment dans des milieux ouverts. Alors là, c'est...
Il y a beaucoup de pertes d'abeilles en Poitou-Charente, et à quoi c'est dû?
Alors, les pertes d'abeilles, c'est variable d'une exploitation à l'autre, c'est variable d'une région à l'autre. Moi, je n'ai pas vraiment d'éléments objectifs qui permettent de dire qu'il y a beaucoup de pertes globalement dans telle ou telle région de France. Honnêtement... Je sais pas, tu en as, toi? Il y en a, mais plus ou moins. Ça dépend des années. Il y a pas, on a des chiffres, mais des chiffres au niveau de l'ATA et au niveau de l'ADA, mais c'est variable d'une année sur l'autre. C'est variable d'un apiculteur à l'autre. Moi, ce que je connais, c'est, je vais vous citer le cas du Manuro, hein, d'une exploitation que je connais, qui est celle de l'INRA, qui est une exploitation en plus qui est très malmenée, parce que c'est une exploitation qui ne sert pas à faire du miel, mais qui sert à faire de l'expérimentation. Donc nous, par définition, quand on a une belle ruche, on la casse. Donc ce qui est complètement... voilà. Donc pour vous donner des chiffres, on a eu des pertes il y a 4 ou 5 ans qui étaient liées à une maladie, qui étaient liées à une nosémose, qu'on a mis sur le dos essentiellement. Alors, Manuro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même au milieu de tournesols, de champs de grandes cultures, quoi. Donc on a eu des pertes qui étaient liées à une maladie. Il nous arrive de racheter des colonies de temps en temps, parce qu'effectivement, on a trop tiré sur la corde. Et donc on a des... Mais si je prends le cas de cette année, par exemple, on a des colonies qui sont... On a un élevage qui est tout à fait... un cheptel qui est même en multiplication. Donc c'est vraiment très, très variable. Alors après, votre deuxième question, quelle est la cause? La cause, je vais vous faire une réponse de Normand aussi. Je ne vais même pas vous faire une réponse de Normand. Je vais vous dire qu'on ne la connaît pas. On soupçonne les insecticides, et je pense qu'il est raisonnable de penser que les insecticides puissent avoir un effet sur la disparition de certaines colonies. Ce qui est certain, c'est que les problèmes de disparition d'abeilles, quand ils existent, ou de mortalité, ils existent dans des pays et dans des zones et dans des régions différentes. Donc, partant de là, c'est assez délicat d'identifier un facteur responsable. Une des hypothèses qui est quand même de plus en plus avancée, c'est qu'on a probablement des phénomènes de cofacteurs, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir un fond d'insecticide qui va effectivement fragiliser les abeilles et les rendre sensibles à certains pathogènes ou à certains parasites. Bon, il y a quand même un parasite qui est quand même omniprésent et on peut difficilement penser que ce parasite n'a pas d'effet sur les colonies d'abeilles. C'est le varroa, qui est à la fois qui affaiblit d'une part les abeilles et qui est un vecteur de maladie. Alors j'entendais des apiculteurs l'autre jour qui disaient ouais, mais avant les abeilles vivaient avec des varroas, elles vivaient bien. Donc maintenant il y a des insecticides qui les affaiblissent vis-à-vis des varroas. Bon, j'ai rien dit, mais j'étais prêt à dire c'est peut-être les varroas qui les affaiblissent vis-à-vis des insecticides. Enfin bon, pour être provocateur. Mais enfin, vous voyez, on est dans une situation finalement où on peut difficilement identifier une cause unique. Et on a effectivement des mortalités de colonies, disparition de colonies qui sont relativement variables. Ce n'est pas satisfaisant comme réponse, mais...
Donc là, vous avez parlé aussi de qualité nutritive des pollens. Est-ce que cette qualité est fixée au niveau de la plante ou est-ce qu'elle varie en fonction des conditions pédoclimatiques ?
Ce qui varie au niveau des pollens, je pense qu'elles sont relativement stables. Ce qui varie, par contre, c'est les nectars. Et c'est également une des hypothèses qui est avancée pour expliquer la certaine baisse de fréquentation de tournesol. Certaines sélections déjà de variétés de tournesol qui seraient moins nectarifères. Et un autre phénomène, c'est effectivement en période de sécheresse, on a une sécrétion de nectar qui est moindre. Et donc, ce qui pourrait expliquer, dans certains cas, une baisse de fréquentation et donc une baisse de miellet sur certaines plantes comme le tournesol. Au niveau de la qualité des pollens, je crois pas. On qualifie vraiment la richesse des pollens en fonction des espèces. On a des fourchettes, bien sûr, c'est pas d'une constance absolue, mais on sait qu'on a des pollens riches, des pollens pauvres. Par exemple, on sait que le pollen de maïs qui est abondamment ramassé en fin de saison est un pollen qui est plutôt pauvre. Mais enfin, bon, c'est ce qu'elle trouve en fin de période estivale. Voilà quoi. Mais pour les nectars, oui, on a probablement des variations de quantité et de concentration.
Est-ce qu'il y a des nectars ou des pollens qui sont toxiques pour l'homme ? On parle des fois de miel toxique.
Enfin, on parle de, chez certains, je crois que c'est chez certains tournesols, la présence de certaines molécules qui sont les terpènes, je crois, oui, qui peuvent induire de la toxicité chez les abeilles. Pendant un temps, on avait évoqué également pendant un temps les pollens de tilleul, mais bon, je ne pense pas qu'on ait une réelle toxicité sur le tilleul. Mais certains terpènes, oui, peuvent être toxiques, oui.
Je voulais juste apporter un élément de réponse sur les mortalités. Le taux de mortalité actuellement en France, sur les dernières années, il est entre 25 et 30% des colonies. Alors, je ne peux pas vous dire en Poitou-Charentes. Mais après, c'est très variable. Ça va de 5 à 60, 70%, voire même des fois un peu plus. Mais la moyenne, qui est quand même significative, quoi, c'est une tendance, elle est de 25 à 30%. Alors que si on se rapporte à l'apiculture il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on était plutôt dans des pertes de 5-10%, quoi. Tous les hivers, on perd peut-être les colonies les plus faibles ou sur lesquelles il y a eu une erreur. On a un taux qui est plus élevé. Après...
Tu parles de l'apiculture d'il y a 30, 40, 50 ans. Moi, j'ai entendu des vieux apiculteurs qui disaient mais des périodes où on a des fortes mortalités comme ça, on en a déjà connu. Voilà. Moi, je serais vraiment assez prudent. On ne peut pas nier qu'il y a une mortalité, effectivement, qu'il y a une mortalité globale, mais ça reste relativement variable. Il y a eu, dans le passé, il y a déjà eu des fortes mortalités d'abeilles. C'est déjà arrivé.
Sur une période aussi longue
de celle qu'on constate ? Avec un retour à la normale. Là, effectivement, on a une évolution quand même. On a quelque chose qui semble se stabiliser, effectivement. Ce qui est pour étendre également aux autres pollinisateurs, ce qui est également constaté, c'est qu'on a une mortalité au niveau des pollinisateurs en général. C'est-à-dire que si on prend il y a eu quelques abeilles solitaires qui ont quand même été observées au niveau européen et on a effectivement constaté des baisses de population. Je vous le disais en début d'exposé, chose qu'on n'a pas observée par exemple chez les cirfes qui ont eux une meilleure capacité à recoloniser les milieux. Par contre, globalement, on constate effectivement quelques disparitions d'abeilles toutes confondues, je veux dire abeilles sauvages et abeilles.
D'avril à août. Ça veut dire qu'avant avril, les abeilles ne sortent pas et après août, elles rentrent à la ruche.
Non, c'est les bornes, c'est les bornes de l'étude. D'accord. C'est juste les bornes de l'étude. Oui. En fait, elles sortent un peu avant et puis après, on a encore des abeilles après le mois d'août quand même.
Dernière question, enfin une question. En dehors de l'étude, vous pensez qu'on a cet effet de pic comme ça, et puis de déplétion, parce que les abeilles sortent en fonction de la température du soleil. Au début, qu'est-ce qu'on a ? On a des pollens de noisetier, de saule, oui. Peut-être en février. Soit février-mars, ça dépend des régions. Et puis après, on a du lierre, on a des fleurs assez tardives, là, jusqu'en ce moment presque. Hein. Et vous pensez que ça fait aussi des pics et des déplétions après ?
Alors, ça, ce sont des résultats qui ont été cumulés sur 3 ans, qui sont des moyennes, en fait, sur 3 ans dans les différentes. Zones qui ont été échantillonnées, donc dans les 30 zones qui ont été échantillonnées sur la plaine de Niort. Alors, c'est certainement c'est un résultat moyen, hein, mais je pense que ça traduit quand même quelque chose qu'on va observer assez généralement dans des zones de grande culture et de monoculture. C'est assez. Oui, je pense que c'est. Je pense qu'on dans des zones de grande culture, on va classiquement observer ce genre de phénomène, oui. Alors peut-être qu'il peut y avoir des nuances au niveau des mois en fonction des régions, effectivement, hein, ça peut être plus ou moins déplacé, mais enfin je pense qu'on aura ça, oui. Je pense que c'est assez représentatif, oui.
Oui, parce qu'on n'a pas eu d'études dans des zones de non-culture sauvage.
D'études analogues, non, à ma connaissance, ouais. Non. Ouais, c'est donc une étude qui est assez originale et non, à ma connaissance, il n'y a pas eu l'équivalent en zone de montagne, par exemple, ou de zone comme ça.
D'accord. Et de même que l'influence de la géologie, sol calcaire ou granitique, etc. Donc, on a des types de flores différents, bien sûr.
Mais là, on est dans une zone donnée, bien sûr. Dans la plaine
donc, il reste du pain sur la planche.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que ce genre d'étude est assez lourde puisque en fait, ça demande, c'est des ruches qui sont observées toutes les semaines. Enfin bon, c'est pas mal de kilomètres, pas mal de temps. Ça, c'est un assez gros boulot. Hein. Et puis nous on a profité de l'opportunité de la zone atelier de Chizé où, comme je vous le disais. Le problème d'expérimenter les abeilles en milieu naturel, c'est précisément d'avoir une idée justement du milieu dans lequel on les étudie. Et la plupart du temps, on ne connaît pas le milieu. De même que là, on arrive à avoir des informations sur les insecticides utilisés, donc sur les parcelles alentour. Alors, jusque-là, je dis bien jusque-là, hein, tous les, je n'ai pas montré de résultats de mortalité, mais tous les résultats de mortalité qu'on a pu voir sur quelques ruchers donc, étaient liés plutôt à des types paysagers, à des caractéristiques paysagères. On a fait des recherches d'insecticides sur certaines zones où on a observé des mortalités. Pour le moment, on a rien trouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, d'ailleurs. Hein. Mais le problème, c'est que quand on veut faire une recherche d'insecticides, c'est toujours très difficile parce que soit on soupçonne une molécule donnée, et à ce moment-là, on va pouvoir faire une recherche très précise sur telle molécule, sur une molécule donnée, soit on recherche sur un spectre assez large de molécules, et là on a des niveaux de détection qui sont relativement élevés, et donc la plupart du temps on ne voit rien. Et il est bien évident que si on est dans un phénomène d'affaiblissement lié à la présence d'un insecticide, on va être dans des doses qui vont être extrêmement faibles, qui vont être quasiment indécelables, quoi. Même s'il y a un effet induit ensuite par d'autres facteurs. Mais ce type de schéma, je pense qu'en zone de grande culture, en fait, ça suit très bien. C'est un résultat qui confirme vraiment une hypothèse qui était celle d'une période de disette entre la floraison, en gros, du colza et du tournesol. Et on retrouve assez bien ça quand on analyse les pollens. Oui. Je pense qu'on retrouvera ça dans à peu près toutes les zones de monoculture. Oui.
Du coup, de ce que j'ai compris, vous arrivez en fait à avoir à la fois le suivi de ce que ramènent les abeilles, avec le parcellaire qu'il y a autour, l'assolement, etc., par rapport à ce graphique-là. Du coup, est-ce que c'est de l'ordre du possible que vous fassiez des projections, par exemple par rapport à des aménagements d'assolement, ou des aménagements, on va dire, en bordure de parcelle ou au sein de la parcelle, du coup, sur de la ressource potentiellement disponible avec ces aménagements-là, et du coup, par exemple, de quelle manière serait modifié le graphique que l'on a là, avec des bordures, des lisières fleuries, etc. Quoi.
C'est l'objectif. Hein. C'est bien l'objectif. Hein. C'est-à-dire, c'est d'arriver sur des recommandations de gestion, bien sûr. Ouais. Mais pour le moment, on n'en est pas là, ça c'est clair. Hein. Pour le moment, on n'en est pas là.
Et du coup, dans la même lignée, mais peut-être, est-ce que vous seriez ou est-ce que vous avez idée de recomposer les assolements passés, entre guillemets, ou par rapport à des modèles d'il y a 30 ans, etc., un petit peu ce qui se pratiquait dans la région, pour justement évaluer la ressource disponible, par exemple, il y a 30 ans, sur la zone de Cigé. Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Est-ce qu'on a des données RGA, par exemple, qui peuvent un peu nous aider à recomposer le type de pratique qui se faisait il y a 30 ou 40 ans.
S'il se trouve qu'effectivement, on identifie dans les zones qui vont nous sembler favorables des pratiques qui se rapprochent de ce type de pratique, oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, ça ne fait pas partie nécessairement de notre stratégie, non? Pourquoi? En fait, je pense que la première question, c'est comme la première question, parce que vous parlez de pratiques d'il y a 30 ans, c'est comment allier une agriculture, on va dire, un peu moderne avec tout ce qu'elle a de bon. Alors on va laisser tomber ce qu'elle a de mauvais, et quand même le remplacer. Ce qu'elle a de mauvais, c'est un usage abusif des pesticides, c'est un retournement des terres abusif également. Comment utiliser ce qu'il y a de bon dans une agriculture moderne, en l'aménageant et en faisant en sorte qu'elle permette justement de garantir de répondre à cette carence, mais pas nécessaire. Enfin, moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse revenir à des pratiques. Non.
Se dire par exemple qu'est-ce qu'on a perdu en ressources par rapport aux assolements qu'on pratiquait.
Ah oui, d'accord.
Qu'est-ce qu'on a perdu? Juste en fait.
Qu'est-ce que l'on peut regagner demain? Ah oui, d'accord.
Sans revenir à il y a 30 ans.
D'accord. Est-ce qu'on aura les éléments d'il y a 30 ans? Ça, c'est une autre question, je ne sais pas trop.
Parce que c'est vrai que ce graphique-là suggère
du coup qu'il y a l'impact des messicoles est sacrément important sur la ressource, en tout cas. Coup, c'est vrai que dans ce que l'on peut lire de vos publications générales, hein, le courrier de l'environnement, etc., je pense à Josin qui avait publié des choses sur l'effondrement des messicoles. On ne peut pas s'empêcher de se dire que l'effondrement des messicoles par rapport aux problématiques de l'abeille aujourd'hui, etc., voilà, quel impact ça a, quelle relation il y a entre les deux, quoi. Voilà, c'est juste.
Oui.
Et du coup, de regarder à la fois dans le futur, dans le passé, pour voir quel lien peut y avoir.
D'accord.
garoquet, une étreinte.